une création. Blast.
Seul comme toi, un podcast de Lou Robert, réalisé par Vincent Deck. On est tous seuls, à un endroit, sous notre peau, dans notre lit, dans le froid, dans nos oui quand on nous demande si ça va, dans notre tête, dans la foule. L'idée de ce podcast est de donner du sens à nos solitudes, ou du moins, les faire entendre. L'idée, c'est d'être seul ensemble.
Je m'appelle Elsa, je suis une femme de 39 ans, je vis en province. Mon métier c'est comédienne, j'écris depuis pas très longtemps. Je suis aussi intervenante de théâtre, je travaille avec beaucoup de public, ça c'est mon métier.
Épisode 11, Elsa, la combattante.
La solitude... C'est quelque chose qui est aussi précieux que douloureux. Il y a certains moments de solitude qui sont assez pénibles. Sur une douleur datant de ma jeunesse, une grande blessure, un grand traumatisme. Et c'est très compliqué parce que y a, même si je suis très entourée, reste ce combat... où personne ne peut m'aider, puisque je suis seule face à la justice. Et ça, c'est un endroit absolu de solitude dans la colère, dans l'endettement, dans beaucoup de choses.
Elsa porte la marque. C'est dans ses yeux, sa façon de sourire, ses absences. C'est dans chacune des cellules de son corps. Chaque blessure a son histoire, son origine. Le couteau se plante, le venin se diffuse. C'est ma définition du traumatisme. J'ai l'image d'une encre noire qui se propage dans le corps, l'esprit. Impossible de l'attraper, de l'extraire. Elle se répand partout. La blessure d'Elsa remonte à son adolescence. Elle a fait beaucoup de dégâts. Elle se bat depuis des années pour les réparer. Elle a écrit une pièce de théâtre sur son histoire. Je l'ai lue et je me suis effondrée dans un café. On est nombreux à porter la marque. J'y pense parfois quand je marche dans la rue. Je me demande combien. Quand je croise une femme, est-ce que toi aussi? Comme Elsa, ça fait partie de moi, de ma façon de regarder, de ressentir. Quand je plonge dans son regard, quand je l'écoute me raconter, je me souviens. Ça part des yeux, des larmes, et ça descend au ventre. Là où moi aussi. Sororité, j'ai un peu de mal avec ce terme. Mais là, avec Elsa, le mot prend tout son sens. Sororité. Oui, elle et moi, nous sommes sœurs quelque part. Dans mon récit Zone Grise, j'écris « Je suis une bombe, j'appelle les autres bombes ». Elsa est l'une de ces bombes. Une bombe de colère, de courage, d'humanité. Une bombe de femme.
À 16 ans, mes parents m'inscrivent à la conduite accompagnée. C'est le cadeau de mes 16 ans. Et je commence mes heures de conduite avec un homme. Je passe 37 heures dans cette voiture avec lui. Et je tombe sous son emprise totale. Je crois à l'époque tomber amoureuse. Je comprends des années après qu'il ne s'agit pas du tout d'amour, et je subis des viols répétés par cet homme. Quand je dis répété, c'est très très répété, puisque ça dure 4-5 ans. Il m'impose le silence, il est l'adulte de confiance, on est dans les années 2000, donc je suis très très au fait du sida, de pas tomber enceinte, de la pilule, de tout ça. En revanche, sur la question du consentement, ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Le violeur est dans les rues le soir. C'est pas un moniteur d'auto-école, ni un prof. Ni... Donc, je ne comprends pas du tout ce que je vis. Le temps passe, il me faut beaucoup de temps pour comprendre que ce que je vis n'est pas normal. C'est le premier homme de ma vie, donc j'ai pas de comparaison. Je pense que c'est ça, l'amour. J'imagine que les hommes embrassent pas, ils caressent pas, ils disent rien. Et moi, j'intègre ça comme une normalité. Donc, ça met du temps pour sortir de ça. Et ça met encore une adolescence de plus, on va dire, pour mettre les vrais mots, en fait, sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire mettre le mot viol. Ça a été un très long chemin.
À l'époque, quand ça t'arrive, tout ça, est-ce que tu te sens seule? Est-ce que tu t'en parles à quelqu'un? Est-ce que...
Je me sens toute seule, mais vraiment dans le désert total. Je me sens toute seule tout le temps. D'abord parce qu'il m'interdit d'en parler à qui que ce soit et que j'ai peur de lui, en fait, tout simplement. Il m'impressionne. C'est quelqu'un qui s'énerve, qui est...
Il a quel âge?
34 ans, 35 ans. Et il est très charismatique, il parle fort, il a quelque chose de très... Enfin, voilà, je suis complètement... Et donc, oui, je me sens très seule parce que... D'abord, j'ai pas le droit d'en parler. Les premiers temps de conduite, il me parle beaucoup, il me pose beaucoup de questions sur moi, il s'intéresse à moi. Il me dit... qu'il ressent des choses, qu'il me comprend. Plein de choses, évidemment, qui font que le piège se referme. Et moi, après, quand il veut qu'on soit en dehors, je veux poursuivre. C'est ça, ce que je viens chercher, évidemment. C'est pas du tout ce qui va m'imposer. Quand j'allais le voir, je m'asseyais à sa table, puis j'essayais de parler. Et à partir du moment où il a commencé à m'imposer des rapports sexuels forcés, enfin, voilà... Après, il a plus du tout parlé, du tout. Et j'ai essayé, et il y avait plus rien. Enfin, j'étais devenue un objet, quoi. Et donc après, la honte m'a isolée beaucoup parce que j'entendais quand même autour de moi mes copines parler de leurs histoires, de leurs premières histoires. Dans les premiers temps, elles savaient pas que j'avais une relation avec lui. Et puis quand j'ai commencé un tout petit peu à en parler. J'ai pas du tout dit la vérité. Enfin, j'avais trop honte, quoi. Déjà, évidemment, je comprenais pas ce qui se passait. J'ai croyé que c'était comme ça, que c'était normal. Mais oui, en fait, je me suis sentie seule d'abord par lui, et puis après par les histoires que j'entendais. Et moi, ce que je vivais, quoi. Rester à poil, enfermé dans le noir. Dès qu'il y avait des élèves... Il m'enfermait à double tour, à poil. Ouais. Et il fallait que j'attende. Et il continuait quand il n'y avait plus personne. Et après, je devais partir. Et moi, j'ai essayé de parler. Et j'étais en état de dissociation totale. C'est-à-dire que mon corps était complètement sidéré. Et il y a eu plein d'étapes. La première étape, c'est... Quand j'ai commencé à en parler un petit peu à des copines, j'ai édulcoré. Et puis ensuite, j'ai grandi comme j'ai pu. Et après, la deuxième étape, c'est essayer de s'extirper de ce truc-là. Donc j'ai réussi à raréfier les moments. Mais cette petite voix de l'emprise, en fait...
Que dès qu'il t'appelait, tiens.
Oui, parce que lui, évidemment, aussi, il a modifié... son rapport avec moi quand il a senti que je lui échappais, quoi. Donc il s'est mis à me déclarer plus ses sentiments. Et puis j'ai réussi avec le temps à aussi le voir et lui imposer des non-rapports sexuels, à lui dire non et à m'échapper. C'est affreux, mais c'est pour ça aussi que pendant longtemps, je me suis dit que c'est moi qui avais provoqué ça, que j'aurais dû dire non, que... Je l'ai dit, hein, évidemment, mais pas tout le temps, donc je me suis exécutée. Enfin, pendant longtemps, vraiment tellement longtemps, j'avais honte parce que j'étais pas capable d'avoir une belle histoire et c'était de ma faute, quoi. Donc il m'a fallu vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre que c'est... plus que des viols physiques, c'est un viol psychique, quoi. C'est un viol d'adolescence, c'est un viol d'enfance, quoi. Donc ça a été un long, long chemin. Et puis ça s'est arrêté, évidemment, par moi. C'est-à-dire que je le voyais quasiment plus. Les deux dernières années, je le voyais vraiment quasiment plus. Et j'ai appris par hasard que sa femme était tombée enceinte. Et là, ça a été un électrochoc. C'est l'enfant, je pense. Un déclic intégral. Une colère qui est sortie d'un coup. Je me souviens avoir fait un truc que j'ai jamais fait de ma vie, c'est taper dans des murs, quoi. Genre à me faire mal avec les poings, un truc, mais jamais ça m'est arrivé. Je suis pas quelqu'un de colérique, je fais pas du tout de crise de colère et tout. Et là, il y a quelque chose, mais de vraiment hyper fort. Et j'ai débarqué, je l'ai appelé tout de suite, j'ai débarqué, j'ai dit que je voulais plus jamais entendre parler de lui. Je l'ai traité de connard. Et après, j'ai refermé ce truc de ma tête, quoi. Et à ce moment-là, il avait juste le qualificatif de connard. Et j'ai fermé la page en disant, c'est un connard, en fait. Et mon cerveau est resté sur cette phrase, c'est un connard. Et donc, il m'aura fallu 15 ans après pour me dire, c'est un prédateur sexuel. C'est un violeur, c'est pas un connard. Voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est un criminel.
Pendant des années, Elsa s'est retrouvée dans cette cave, nue, à attendre que ce corps d'homme la brise. Chose qu'il a faite, il l'a brisée. Et même brisée, ce n'est pas assez fort. Aucun mot n'est assez fort. C'est le dégoût, le cauchemar, c'est l'emprise, l'enfance tachée de sang, de sperme. C'est l'horreur. Il faut comprendre que dans ces histoires, ça ne s'arrête pas au viol. Au moment où ça se passe, il y a l'après. Le corps qui cherche à parler et la tête qui dit « chut, tais-toi ». Des problèmes de santé, des angoisses, des histoires d'amour chaotiques. Pour survivre, la tête d'Elsa se sépare de son corps. Une femme coupée en deux, qui raconte la mauvaise histoire. Jusqu'au jour où son corps se réveille, il se relie à sa tête. Elsa redescend dans la cave.
Quand je sens des choses qui sortent de moi, j'ai 25 ans, et je sens que des choses ressortent. En fait, les souvenirs ressurgissent vraiment comme des flashs, quoi. C'est-à-dire que pendant 15 ans, en fait, j'avais jamais repensé à cet homme. C'est-à-dire que je ne l'ai pas oublié, lui. En revanche, j'avais verrouillé complètement l'histoire, quoi. Quand j'étais amenée à devoir parler de ça, je disais trois phrases, quoi, sur lui. Et sur cette histoire, je la qualifiais pas, en fait. Et ensuite, en plus, j'ai eu à répétition des rencontres épouvantables. Des hommes violents, j'ai eu vraiment une série. Et avec les années, il y a eu une petite progression. Enfin, je rencontrais toujours pas l'amoureux, quoi, mais j'avais que des amants. Jusqu'à me dire, bon, ben, le couple, la vie amoureuse, c'est pas pour moi. Et le jour où je l'ai accepté vraiment, le soir même, j'ai rencontré donc, la personne avec qui je suis restée 7 ans après, qui était mon premier amoureux à 25 ans. Et on a eu 2-3 années où vraiment ça a été la découverte de l'amour, vraiment. Et au bout de quelques années... il y a des choses, des réactions. J'ai commencé à avoir des... C'est mon corps, surtout, qui a eu des crises d'angoisse, des choses très, très, très fortes qui naissaient souvent de conversations sur la sexualité. Et c'est venu très, très fort, au point de mettre en péril, en fait, mon couple. Donc, je suis allée voir une psy. Et puis, on a commencé à faire une plongée dans mon histoire. On est passé par beaucoup, beaucoup de choses, hein, puisque j'ai un parcours aussi familial un peu chargé, on va dire. Je suis une enfant adoptée, tous les hommes que j'avais rencontrés, voilà. Et puis au bout d'un an, quasiment jour pour jour, on est arrivé au prénom de cet homme. Et là, à partir de là, le gouffre s'est ouvert, quoi. Mais vraiment, la honte, le dégoût de moi-même. Et je me souviens, à l'époque, j'avais une amie qui travaillait auprès des délinquants sexuels et qui m'a posé des questions, mais très, très précises, sur les faits, en fait. Donc, c'était la première fois que j'abordais les choses de façon directe, factuelle, avec des questions précises qui m'ont vraiment permis d'ouvrir les yeux sur tout le sordide. Comme les rituels, descendre à la cave, me retourner, baisser mon pantalon. Est-ce qu'il parlait ? Est-ce que tu as dit non ? La fameuse grande question. Est-ce que quand il remontait, tu pouvais partir ? Non, j'étais enfermée. Tout ça, enfin voilà, ces questions auxquelles moi, toute seule, je pense que j'aurais pas pu me poser, en fait. Et la première chose que j'ai faite, c'est appeler le numéro vert des violences sexuelles. Voilà, un peu perdu. Et j'ai pas compris ce qu'elle me disait, je l'ai compris des années après. J'ai dû le corriger encore, je pense, beaucoup. J'avais pas les bons mots. Je parlais d'histoire d'amour. J'employais pas les bons mots, en fait, puisqu'elle m'a répondu « Vous n'allez pas porter plainte tout de suite, vous n'êtes pas prête. » Et moi, j'ai pas compris pourquoi elle me disait ça. Elle m'a dit « Continuez votre chemin et vous saurez quand ce sera le moment d'aller porter plainte. » Parce que se défaire de sa honte, se défaire de sa culpabilité, ça prend du temps. Et mettre les bons mots, nommer la pénétration forcée, la sidération, ça prend du temps, en fait.
Certains diront « Oui, mais elle a accepté de le suivre. Oui, mais elle était amoureuse. Oui, mais elle l'a revu, encore et encore. Oui, mais elle lui a répondu. Oui, mais elle n'a rien dit. » C'est à cela que je m'adresse. Allez voir la pièce d'Elsa et vous comprendrez. Vous changerez d'avis. C'est à cela que je dédie ce podcast, afin qu'ils changent de camp. Mais ceux-là n'iront pas voir la pièce d'Elsa. Ils n'écouteront pas notre entretien. C'est toujours pareil. On parle de liberté de parole, mais si personne n'écoute, si les seuls qui répondent présents sont les victimes, qu'est-ce qui se passe ? Rien, jusqu'au jour où on sera si nombreuses que ceux-là ne pourront plus fermer les yeux. J'attends ce jour, Elsa aussi.
Et ensuite, il y a « qu'est-ce que je fais de ça ?» Donc j'écris, et en parallèle, je franchis les portes d'une avocate que quelqu'un me conseille. Cette avocate me dit « non, n'allez pas au commissariat, ça peut être violent, écrivez directement une lettre au procureur de la République. » Donc j'écris une lettre au procureur de la République, et je la relance, et elle ne me répond pas. Et en même temps, je ne veux pas changer d'avocate. Je tiens à elle, puisque c'est elle qui m'a dit, pour la première fois, c'est une représentante, on va dire, de la loi, qui me dit, oui, il s'agit bien de viol. Et donc, je renonce pas à cette avocate, même si elle me balade pendant des mois, puis elle me laisse tomber. Donc, c'est très difficile. Je vais voir un autre avocat. Et cet avocat me dit, mais pourquoi votre avocate vous a dit ça ? Il faut surtout aller au commissariat le plus vite possible. Voilà, donc je vais au commissariat. Et là, je tombe sur... sur un homme charmant, très très investi, qui veut le coincer, quoi. Qui veut vraiment le coincer. J'en ai fait un personnage que j'appelle le super-héros dans mon spectacle. Voilà, c'est vraiment à l'américaine, quoi. Donc il est prêt à me donner. Il me donne son numéro perso, je peux l'appeler nuit et jour si je veux. Et puis, première audition, deuxième audition, il se rend compte qu'en fait, il connaît la femme de mon agresseur. Et là, il commence à ramollir dans son engagement. J'ai plus trop de nouvelles de lui. Je continue à l'appeler, donc. Et il me dit qu'il a fait remonter la plainte au procureur, mais que malheureusement, son boss ne suit pas trop et qu'il n'y a pas grand-chose à faire. bah voilà, il n'y a pas de preuves, c'est trop vieux. Bien sûr, la plainte est remontée au procureur, mais bon, lui, il est un peu coincé, parce que bon, son boss ne veut pas faire grand-chose, quoi. Voilà, ça se finit comme ça.
À ce moment-là, tu te sens seule ?
Je me sens seule parce qu'à ce moment-là, mon couple est en train d'exploser. Pour mon compagnon, c'était trop violent pour lui d'en parler. Et j'avais laissé justement un jour une lettre, la lettre ouverte que j'avais écrite au procureur, qui est restée lettre morte. Je l'avais laissée un jour dans un tiroir, je lui avais dit bah, « le jour où t'es prêt, voilà, dedans il y a l'histoire, donc tu pourras la lire si tu veux ». Et il l'a fait très longtemps après, et ça a été vraiment pour lui extrêmement difficile. Donc c'était un sujet qui était finalement assez tabou entre nous. Et je me suis sentie très très seule, parce que pour mon père aussi, mon père a été dans le déni immédiat. Quand je lui ai dit « papa, je suis allée au commissariat porter plainte », il m'a juste répondu « d'accord, et donc la table basse, tu viens la chercher vendredi ou tu viens la chercher samedi ?» Et ça a été sa réponse. Cette réponse-là, elle a été si rapide que j'ai compris qu'il n'y avait même pas de traitement d'information de sa part. Il ne pouvait pas traiter l'information. C'est un mécanisme de survie de sa part, je pense. De pas, Et on en a quand même reparlé quelques temps après. On n'est jamais rentré dans l'histoire. Mon père ne sait pas du tout ce qui m'est arrivé. Je lui ai dit quand même, tu sais, papa, ben voilà, je suis allée porter plainte. Et il m'a dit, tu m'en as parlé. Enfin... Il a intégré l'information, mais il n'a jamais pu aller plus loin. Et je ne lui en ai pas voulu parce que, en fait, moi, j'avais tellement peur en fait, que mon père succombe à ça, ne supporte pas ça. Il était dans une période de vie très fragile, que j'avais peur qu'il se suicide, en fait. Donc, je suis dans une tempête de vie épouvantable, quoi. Avec une solitude... Ouais. Là, vraiment douloureuse, très très douloureuse.
Elsa aurait pu s'arrêter là. Elle aurait le droit. Mais ce n'est pas dans ses habitudes. Elle puise son énergie dans le combat. Après avoir porté plainte, son couple se brise. C'est aussi ça le viol. De belles histoires qui prennent fin. Elsa s'engage seule dans cette bataille. Aucune nouvelle du policier, de sa plainte. Elsa ne lâche rien. Elle prend une nouvelle avocate.
Elle me dit, elle voit où est-ce que j'en suis. Elle me dit, donc si vous n'avez plus de nouvelles du commissariat, on va aller au tribunal pour voir où en est votre procédure. Elle va au tribunal et en fait, aucune trace de ma plainte. Aucune. Donc là, bon, on comprend qu'il y a un problème. J'écris une nouvelle lettre. J'en ai écrit des lettres ouvertes, hein, ça. J'écris une nouvelle lettre donc au juge d'instruction pour lui expliquer que j'ai porté plainte, machin, tout ça. Et le juge d'instruction me reçoit dans son bureau, m'explique qu'il n'a retrouvé aucune trace de plainte. Toutes les auditions ont disparu. Quand l'avocate s'est rendue compte que le commissariat n'avait pas du tout fait son travail, c'est-à-dire son obligation légale de faire remonter la plainte auprès du procureur, elle m'a dit « on se constitue partie civile directement, on ne passe pas par le commissariat, on se constitue partie civile, ça veut dire on interpelle directement un juge d'instruction voilà. ». Évidemment, il y a une somme à verser hein, pour ça, donc je m'endette, hein, je creuse.
Tu dois payer à chaque fois combien ?
Oh, en fait, les frais d'avocat, c'est jamais moins de c'est 500 euros par-ci, 800 euros par-là.
Et à l'époque, tu gagnes 600 euros par-là ?
Et à l'époque, je suis à 800 euros maximum, je pense, à peu près. Donc c'est vraiment un gouffre, je m'endette, vraiment. Ça, c'est une grande solitude, hein, même si ça paraît un peu dérisoire. Le financier, ça a été un truc qui m'a vraiment... bouffé, mais tellement de fois. Donc on se constitue partie civile. Une amie à moi crée une cagnotte sur Ulule intitulée « Tous unis contre les enculés de moniteurs d'auto-école voilà. ». Donc ça paye le séquestre. Et donc le juge d'instruction découvre que le dossier est vide, que tout a disparu. Et là, il somme le commissariat de faire une enquête. Il demande à ce que ce soit un autre officier de police qui s'occupe du truc. Quelques mois après, toujours pas de nouvelles. Je relance, mon avocate relance. À chaque acte, hein, c'est, je paye de l'argent. Et je demande une audition. Et là, j'ai un juge d'instruction qui me sort un dossier. Et il me montre les lettres de relance qu'il a adressées au commissariat. Il a envoyé donc 7 lettres de relance pour exiger une enquête. Il a fini par avoir un retour d'enquête qui tenait sur une feuille blanche où il y avait eu une recherche Google. Je déconne pas, hein, vraiment, c'est réaliste. L'officier de police, c'est toujours lui. Donc là, il explique que c'est pas possible. Et quelques mois après, le nouveau rapport d'enquête arrive. Et là, ce rapport d'enquête, en fait, c'est toutes les auditions qui avaient disparu, qui resurgissent comme par magie. Donc on a un problème avec le commissariat, apparemment. Et à ce moment-là, le juge part. Donc un nouveau juge provisoire est nommé. Donc c'est reparti, le temps passe, pas de nouvelles. Je continue bien sûr à payer des frais d'avocat. Lui donc n'est toujours pas évidemment entendu par la justice. Il n'a jamais eu aucune convocation. Et quand je dis au juge, folle de rage, mais j'ai porté plainte il y a 5-6 ans, il est en contact avec des mineurs toute la journée, vous vous rendez compte ce que ça implique ? On me répond, je ne peux pas procéder à l'interrogatoire de première comparution tant qu'il n'y a pas assez d'éléments pour le convoquer. La conséquence, c'est qu'il est en liberté. Il vient de se faire creuser une piscine. J'ai vu ça parce que je le stalk sur les réseaux sociaux.
Ah oui, tu
le... Ouais, je le retrouve. Là, c'est le vertige, quoi. C'est-à-dire que je tombe sur lui. J'avais évidemment jamais cherché tout ça. Et je tombe sur un profil, une vitrine d'homme parfait, quoi. On devrait avoir dans le cœur le dixième de l'amour que nos chiens ont pour nous, et il y aurait la paix sur terre, des citations du Dalai Lama, c'est un engagement contre le sida, contre les violences faites aux femmes, contre, voilà, un truc, une décharge de bons sentiments, de vertu, d'humanité. Mais voilà, le mec publie, poste des trucs toutes les 2 heures. Hein. Et puis, face au fait que ça n'avance pas, je me mets à faire mon enquête moi-même, quoi. Et je passe des nuits entières à aller chercher sur les réseaux sociaux. Je finis par tomber sur des commentaires sur lui qui le traitent de gros dégueulasse qui traque des jeunes filles de 15 ans, 16 ans, quoi. Et là, mon monde s'effondre. C'est-à-dire, en fait, je crois que c'est un des moments les plus douloureux pour moi parce qu'en fait, je me dis, en fait, d'accord. En fait, ça continue. Ça fait 6 ans que j'ai porté plainte. Ces commentaires datent de l'année dernière. Là, c'est vraiment la prise de conscience absolue, en fait, de l'enfer de ce type et des conséquences. Enfin, quand je vois, moi, la destruction intégrale, enfin, pas intégrale, puisque je suis toujours là, mais les conséquences que ça a eues dans ma vie, dans mon corps, dans mon chemin de vie, quoi. Je me dis non, mais c'est pas possible. Donc je vais faire une filature carrément pour le suivre. Enfin, je fais n'importe quoi en fait, hein, mais je veux avancer, je veux trouver des preuves.
Et tu le revois, du coup ?
Je le vois, ouais. Je le revois pour la première fois, au loin, posté dans une voiture, les phares éteints, en train de l'observer au loin. Et c'est très difficile. Ça propulse en fait dans les sensations dégueulasses, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme en fait, dégueulasses, dans lesquelles j'étais quand j'avais 15 ans. Mais de façon vraiment, il y a tout qui m'est arrivé, hein, vraiment les trucs les plus durs, quoi, les odeurs de son sexe, tout est revenu, mais en mémoire intacte, quoi. C'est ça qui est incroyable en fait, c'est qu'il y a quelque chose d'intact dans le dégoût, en fait, ouais. Donc c'est vraiment difficile pour moi. Mais ça, ce sera bien pire quand il va y avoir une confrontation, quelques années plus tard. Parce que la chose qui a été le plus difficile, c'est sa voix. Parce que là, j'avais pas entendu sa voix. Mais quand j'ai été confrontée à lui l'année dernière, Mais il est arrivé dans la pièce, en plus, à la réconfrontation, donc dans un bureau de 5 mètres carrés et demi, donc ultra présence. Il est arrivé. Mais la première phrase, c'est un haut-le-cœur géant, quoi. Et ça s'est évaporé en une seconde, quoi. C'est-à-dire que il a commencé à parler. Et après, je me suis dit, OK, c'est moi qui ai le dessus, c'est bon. Je suis plus dans la voiture, là. C'est terminé, je suis sortie de la voiture. Je crois que j'ai pas le droit de dire, en fait, ce qui est sorti de cette confrontation, puisque la procédure est en cours. Mais dans ce petit bureau, là, j'ai vraiment réglé un truc à ce moment-là. Voilà.
Tu te sens moins seule, du coup,
ouais.
À ce moment-là.
Oui, 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 carrément. En fait, j'ai enfin l'impression que quelqu'un prend le... Enfin, prend mon histoire et s'en occupe, en fait. S'occupe vraiment de... Parce qu'il y a ce truc-là aussi dans la justice, cette reconnaissance, quoi, de la société sur « tu n'aurais pas dû vivre ça », ben, en fait, elle est vraiment hyper importante. Et depuis ça, j'ai l'impression que j'ai... entre guillemets, je suis sortie de la case. C'est-à-dire, je crois que j'y suis plus. Le livre aussi. Le livre m'a, je crois... libérée de ça. Par contre, là où ça me propulse, c'est sur le constat, en fait. Pardon.
Il y a des choses qui sont détruites à jamais, en fait. C'est le constat de... Malgré les reconstructions, le... Je suis ménopausée à 30 balais. J'ai vécu des violences à répétition dans ma vie à cause de cette enflure, en fait.
Beaucoup de gens dans mon entourage me disent « Non mais... arrête, quoi. » Et je suis coincée dans ma propre nature. C'est-à-dire que... Mais si j'arrête de me battre, en fait, c'est terminé pour moi. Je peux pas. Je peux pas arrêter ça. Des fois, je me dis que je suis folle, hein, d'être... Mais vraiment, là, encore, aujourd'hui. Mais c'est irrépressible chez moi. Je suis obligée de me battre, sinon j'ai l'impression que je vais mourir. Et les étapes qui arrivent, c'est... Le rapport d'instruction qui va être envoyé donc à un parquet, et donc le parquet émet un avis favorable ou défavorable, c'est-à-dire assez d'éléments à charge ou pas. Est-ce qu'on va au procès ou pas? Donc le parquet peut émettre un avis défavorable par absence de preuves, ça c'est très très probable. Mais la juge peut quand même décider d'aller au procès sans l'avis favorable du parquet. Le problème, c'est que souvent, donc dans ce genre de procédure, on propose une correctionnalisation des faits. Ça aussi, c'est un truc qui est quand même dingue. La première étape, c'est on propose à la victime de modifier un petit peu son histoire et de dire, bon, est-ce qu'on peut dire que ce ne sont pas des viols, mais des agressions sexuelles? Comme ça, c'est du tribunal correctionnel. Vous partez avec, allez, vous partez avec 2000 balles. Et puis voilà, comme ça, vous avez votre petit procès. Moi, c'est pas possible, parce que agression sexuelle, ça veut dire qu'il y a prescription. Ce sera soit les assises, soit rien. Ce que j'espère, c'est qu'il y ait un procès, point. Juste ça. J'ai conscience que j'ai très très peu de chances de le gagner, s'il y en a un, parce que on condamne quelqu'un sur des éléments de preuve.
Et t'es la seule à avoir...
Là, il y a... de ses propres révélations. Il est évidemment... Je suis tombée de ma chaise quand j'ai entendu ça. Il a eu d'autres relations sexuelles, beaucoup, avec des élèves. J'imagine aussi des mineurs. Hein. Donc j'espère que la juge ira chercher. Je ne sais pas. Voilà où j'en suis. Je ne sais pas. Et en fait... Enfin, j'ai parlé beaucoup de solitude et de colère parce que dans cette colère, elle est vraiment... elle est vraiment au fond de moi, à l'intérieur. Mais cette colère, elle est tout le temps ravivée aussi. Quand je vois toutes les affaires médiatiques, tout ça, il y a un truc que je ne peux pas faire. C'est regarder, par exemple, les commentaires des gens, tout ça. Et me rendre compte du nombre de personnes qui sont encore complètement à l'ouest, en fait, sur ce sujet. Et qui ne comprennent pas les conséquences, la gravité des gens qui reprochent à des victimes de faire des tribunaux médiatiques. Bah ouais, mais en fait, comment on fait ? Parce que c'est un fléau, quoi.
Comment tu te sens là, aujourd'hui ?
Ça va, je me sens solide, protégée par pas mal de choses. Donc je me sens plus du tout en danger. Mais il y a une corde sensible qui restera sensible toute ma vie, en fait. Et qui fait que quand on la gratte un peu, là, ben, elle fait pleurer un peu toujours, quoi. Et ça, je crois que la douleur, faut cohabiter avec, hein. Mais ça va. Ça va pas me briser. Ça peut plus me briser, je crois.
L'entretien se termine. Les yeux d'Elsa sont humides. J'y vois l'innocence volée, l'adolescente en souffrance, les années à se détruire, la bataille sans fin, le gouffre financier, jusqu'à cette femme, tellement forte. Beaucoup lui ont demandé d'arrêter. Beaucoup ne comprennent pas, pensent qu'elle est folle. Moi, je la comprends. Je ressens toute sa rage, là, dans mon salon, dans sa pièce de théâtre, dans son regard. J'ai envie de prendre sa main, lui promettre qu'elle vaincra. Ce serait mentir, je n'en sais rien. J'ai une certitude, elle ne s'arrêtera jamais de se battre. Cette femme n'est pas folle. Cette femme est une bombe. Cette femme est une sœur. Cette femme est une guerrière. Seul comme toi, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck. Un grand merci à Elsa pour sa confiance. Et si vous avez aimé ce podcast, que vous pouvez écouter et télécharger sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous rendre sur le site de Blast. Vous pourrez vous abonner si vous voulez que l'expérience sonore éditoriale continue.
Une création
Blast.